France Info. Bonjour à tous. De la trottinette électrique à la voiture autonome, en passant par le taxi volant, le surf des airs ou tout simplement le covoiturage, la mobilité est en train de vivre une véritable révolution technologique. Alors quelles sont les nouvelles formes de mobilité qui nous attendent pour le futur? Quels sont les freins éventuels à leur développement, mais quelles sont également les perspectives? On en parle dans ce podcast natif Nouveau Monde spécial VivaTech 2019. Alors c'est un podcast exclusivement proposé en numérique par France Info et par la direction du numérique de Radio France et en partenariat avec le magazine Les Échos. Pendant 5 semaines, chaque samedi, on se retrouve et on se plonge dans l'innovation technologique à la française. On parle donc aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler les Mobility Tech.
Nouveau Monde, spécial VivaTech 2019. Présenté par Jérôme Colombin de France Info et Guillaume Brégeras du journal Les Échos.
Et oui, il est à mes côtés, Guillaume Brégeras, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Alors ce secteur des technologies liées à la mobilité sera à l'honneur à VivaTech. Hein, VivaTech qui va démarrer le 16 mai prochain. Et c'est un secteur en plein boom, il faut le dire.
C'est un secteur qui se porte très bien Jérôme, puisque l'année dernière, donc en 2018, les startups du secteur ont levé 220 millions d'euros. C'est un des premiers secteurs les plus porteurs pour cet écosystème. La moitié, un peu moins de la moitié de ce montant a quand même été aspiré entre guillemets par BlaBlaCar. Donc peut-être que Frédéric nous en parlera tout à l'heure.
Mais... Et oui, car le PDG fondateur de BlaBlaCar est avec nous.
Mais la dynamique est là et elle est inscrite pour un petit moment maintenant.
Bonjour Frédéric Mazzella.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et d'être présent avec nous. Fondateur et président de BlaBlaCar, la licorne française de covoiturage qu'on ne présente plus. Vous allez nous parler de ce que vous faites actuellement, de ce que vous allez éventuellement dévoiler à VivaTech et puis de votre futur aussi. Un autre invité dans ce podcast consacré à la mobilité, il s'appelle Franky Zapata et vous l'avez peut-être vu en vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un peu notre Iron Man français, il vole au-dessus de l'eau avec des engins incroyables. Franky Zapata, vous êtes avec nous en liaison depuis Aix-en-Provence, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Enchanté.
On est ravis que vous participiez avec nous à cette émission sur les technologies au service de la mobilité. Nous avons également deux autres invités. François Sillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en intelligence artificielle et surtout vous dirigez ici à Paris l'Advanced Technology Center de Uber. C'est donc le centre de recherche parisien de Uber, c'est bien ça ?
Tout à fait, un centre qui est focalisé sur l'application à la mobilité aérienne.
Aérienne. Alors voilà, on va prendre de la hauteur dans ce rendez-vous parce que avec vous, on va parler de taxi volant. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose sur lequel travaille véritablement Uber. Et puis pour remettre tout ça dans un contexte qui est celui de la ville du futur, nous sommes avec Julien Villalongue. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez Léonard. Léonard, alors c'est une plateforme de prospective et d'innovation qui est une émanation du groupe Vinci.
C'est exact.
Voilà, grand groupe de travaux publics.
Et, construction.
Et vous pensez, vous, déjà à la ville du futur, à la route du futur notamment.
Exactement.
Alors, on va commencer avec Frédéric Mazzella de BlaBlaCar. On ne présente plus BlaBlaCar, bien entendu, créé en 2006. Aujourd'hui, leader mondial du covoiturage avec 70 millions de voyageurs. En plus, BlaBlaCar, ce ne sont plus seulement des voitures, c'est depuis quelque temps des autobus. Vous avez racheté Webus qui est en train de devenir BlaBlaBus. Mais au départ, vous êtes vraiment une start-up, une émanation de la... du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, Frédéric Mazzella, vous dites merci à Internet, merci au smartphone ?
C'est sûr que le covoiturage tel qu'on le connaît aujourd'hui n'aurait pas pu se développer sans les nouvelles technologies, puisque ça fait l'usage d'une plateforme technologique avec à la fois évidemment les bases de données, les moteurs de recherche, la connectivité permanente, y compris jusqu'au smartphone. Donc c'est vrai que le covoiturage ne peut se développer que parce que c'est une mise en relation de personnes qui d'un côté ont des places dans les voitures, donc des places libres, et d'autres personnes qui les recherchent. Donc c'est une très grande place de marché permise par la technologie. Donc nous, dans l'œuf, au départ, on est à la fois technologique et à la fois optimisation des ressources, optimisation des places libres dans les voitures. Ça veut dire optimisation et diminution de la consommation d'énergie. Mm-hmm. Ça veut dire évidemment diminution de toutes les nuisances associées, c'est-à-dire la pollution, la congestion.
Il paraît que vous avez fait baisser le CO2, la consommation globale des voitures.
Oui, on a fait une grande étude sur 95 millions de trajets réalisés avec BlaBlaCar, qui montre que on a permis l'économie de 1,6 million de tonnes de CO2, de l'émission de tonnes de CO2, donc en moins, ce qui représente, pour vous donner une idée, l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, y compris le périphérique, un an.
Parce qu'évidemment, vous mettez plus de monde dans les voitures.
Donc voilà, c'est-à-dire qu'on voit très vite, évidemment, qu'avec 3 ou 4 personnes par voiture, on fait beaucoup plus d'économies d'énergie qu'avec une ou deux. Donc c'est la base de tout le concept. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bête comme chou. Hein. Heureusement, parce qu'après, l'exécution est un petit peu compliquée.
Oui, j'imagine. Alors voilà, vous êtes également aujourd'hui condamné à innover toujours.
Ça va, il y a pire.
Oui, bien sûr. Il y a pire, effectivement, qu'à être condamné à ça. Et de quelle manière, justement, est-ce que vous innovez? Comment est-ce que vous entrevoyez le futur de votre métier et du covoiturage?
Alors, on voit que les mobilités évoluent énormément, hein, parce qu'il y a plein de révolutions qui arrivent en même temps. La mobilité devient connectée, partagée, autonome, électrique. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tendances de fond qui viennent bouleverser nos mobilités. Et tout cela, c'est technologique, en fait. Mmh. Hein, donc, la mobilité et les transports, ça nous occupe quand même beaucoup. Hein, ça occupe beaucoup de l'énergie qui est dépensée tout court au niveau de la planète. Et donc, du coup, tout ce qu'on peut amener comme optimisation et innovation pour pouvoir se déplacer, eh bien, va l'être, parce qu'on est de plus en plus mobile, on a de plus en plus de besoins. Et en même temps, il faut faire de plus en plus d'économies de nos ressources, parce qu'on a quand même des enjeux climatiques forts.
Mais Frédéric Mazella, quand on parle de mobilité, on ne peut pas s'empêcher de parler de voitures autonomes. Demain, avec l'arrivée de la voiture autonome, comment est-ce que vous envisagez votre métier de covoitureur?
En fait, ce n'est pas très différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, BlaBlaCar met en relation un conducteur qui possède sa voiture avec des passagers qui font le même trajet, avec 1, 2, 3 passagers. Et demain, s'il faut mettre en relation 2, 3, 4 passagers qui font le même trajet dans une voiture autonome, c'est en fait quasiment le même métier. Mmh. Ça change pas grand-chose.
Ça sera peut-être plus simple.
Voilà, ça change pas beaucoup pour une plateforme technologique comme BlaBlaCar.
Donc vous y pensez à la voiture autonome?
Oui, on l'attend. Enfin, comme tout le monde, mais...
Mais vous êtes engagé dans des programmes particuliers?
Non, pas spécialement, parce que de la même manière qu'on n'est pas engagé non plus dans la construction des voitures qui utilisent le réseau BlaBlaCar aujourd'hui, demain, il y aura des voitures autonomes, elles pourront participer dans le réseau BlaBlaCar de la même manière. Le changement, il n'est pas tellement au niveau du principe du covoiturage lui-même, qui tout simplement est un partage de la voiture. Il faudra toujours partager la voiture. De toute manière, j'ai envie de dire, voiture autonome ou pas, voiture électrique ou pas, dans 10 ans, si on ne partage pas plus nos voitures, on aura de toute manière notre mur écologique, il sera là. Enfin, donc il faut vraiment de toute manière qu'on change nos habitudes. Donc la mobilité du futur sera de toute manière partagée et BlaBlaCar y aura sa place.
Oui, et l'idée c'est qu'elle soit tellement partagée qu'on ne soit même plus forcément propriétaire de son véhicule.
Voilà, la vraie question c'est celle-là. La vraie question c'est qui va posséder ces voitures autonomes. C'est-à-dire, parce que là aujourd'hui, les flottes de voitures, en plus thermique, mais en tout cas pas autonome. Les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont l'immense majorité de la flotte est possédée par des particuliers qui achètent leur voiture. Ce modèle de propriété là est amené à évoluer avec les voitures autonomes, forcément, parce qu'on va penser à une utilisation qui sera complètement différente avec les voitures autonomes, puisqu'on n'aura plus besoin d'avoir des conducteurs. Donc la vraie question, ça va être qui possède à terme ces voitures-là. Mais après, au niveau de l'usage, un réseau comme BlaBlaCar aura tout à fait largement sa place.
On peut pas imaginer BlaBlaCar posséder sa flotte de voitures autonomes.
Alors, ça pourrait être une éventualité, mais enfin pour l'instant, c'est pas du tout. On n'est pas. Enfin, nous, on est sur des logiques de place de marché. Donc, il faut déjà qu'il y ait des millions et des millions de voitures en circulation pour que le principe soit intéressant. Et après, oui, un BlaBlaCar pourrait éventuellement imaginer aller acheter des flottes de voitures. Enfin, c'est pas. D'autant plus que lever de l'argent pour aller acheter des assets comme les voitures, c'est pas le plus compliqué.
On voit dans les trottinettes, c'est par exemple aujourd'hui des startups qui lèvent énormément de fonds pour acheter des trottinettes, les mettre en service, et pour des sociétés qui sont valorisées extrêmement, extrêmement fort.
Donc, la trottinette, vous y avez pensé chez BlaBlaCar? Non, pas spécialement.
Non, pas spécialement, non, aujourd'hui, non. Mais encore une fois, c'est un modèle, la trottinette, où il faut posséder Là, il faut posséder les
pas sauf les véhicules. Les flottes comme ça, les free flottes.
Il y a bien quelqu'un qui les
possède. Oui, il y a quelqu'un qui les possède.
C'est quand même la société qui opère le service, qui possède du coup les trottinettes. Enfin, elle peut avoir levé de l'argent pour et peut y avoir de la dette en face. Mais en tout cas, c'est un modèle dans lequel il faut posséder la flotte et c'est pas notre modèle aujourd'hui. Alors, on y a pensé, mais rapidement, on va dire.
Alors, il y en a un qui y pense beaucoup, évidemment, à la voiture autonome et à tous les modes de mobilité. C'est Uber. Uber qui fait des expérimentations aux États-Unis en termes de voiture autonome. Uber qui vient de lancer, il y a quelques semaines à Paris, son premier service de trottinette en libre accès. François Sillon, alors avant de parler des taxis volants, qui est votre activité principale en ce qui vous concerne, est-ce que demain, Uber pourrait être concurrent de BlaBlaCar, finalement?
Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. La vraie question, c'est le positionnement principal. Donc, Frédéric se positionne en tant que plateforme de partage. Donc, notre positionnement est légèrement différent puisque ce qu'on propose, c'est une offre de transport de bout en bout qui va combiner différentes modalités. Donc, on en parlera tout à l'heure avec, par exemple, l'aérien qui viendra enrichir. Il y a donc les VTC, les vélos, les trottinettes. Et donc, l'idée, c'est pour aller d'un point A à un point B, quels sont les différents modes de transport que je vais combiner. Et d'ailleurs, il faudrait y ajouter aussi les transports publics, parce que ça n'a pas de sens de développer tout cet écosystème de différentes modalités en dehors et de façon complètement indépendante du transport public. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait imaginer, au contraire, que BlaBlaCar soit une des modalités, c'est-à-dire de quelle façon le partage de trajet sur certains segments du trajet va être opéré.
Ouais.
Que ce soit avec des véhicules de particuliers,
On n'est pas allé sur le terrain stratégique long terme de BlaBlaCar, mais évidemment, il y a la combinaison des transports également. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas.
Ça c'est l'une des clés. Il y a déjà des startups en Royaume-Uni.
Bien sûr. C'est-à-dire que si on met du bus et du covoiturage aujourd'hui sur la même plateforme, et si on fait du court distance et du longue distance, c'est pas pour les laisser séparer.
Vous travaillez tous avec les pouvoirs publics d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à interconnecter vos services avec les services de transport?
Nous, si vous voulez, ça a été annoncé au moment. Enfin, on a eu deux opérations en même temps quand on a annoncé notre offre d'achat sur Webus. C'est-à-dire qu'il y a non seulement cette offre d'achat, mais en même temps aussi la SNCF qui va pouvoir entrer un petit peu au capital de BlaBlaCar. Donc en fait, on est tout à fait dans une logique de combinaison de moyens de transport à moyen terme.
Alors pour que tout cela puisse fonctionner dans le futur, est-ce il faudra également, très certainement, des villes et des routes de plus en plus intelligentes. Julien Villalongue, c'est la problématique à laquelle vous réfléchissez chez Léonard, émanation du groupe Vinci, je le disais. On s'aperçoit que la voiture autonome ou pas, enfin qui va devenir de plus en plus autonome, a finalement besoin, pour être réellement autonome, de se repérer dans un environnement qui lui aussi sera intelligent.
C'est effectivement un des grands sujets que l'on a regardé, et d'identifier la contribution de la route au final au développement de ces nouvelles mobilités, de la façon dont elles peuvent accélérer, sécuriser, rendre plus efficaces ces nouvelles mobilités. Ce que l'on peut constater, c'est que cet objet, la route, c'est plus seulement un support de ces mobilités, mais elles deviennent plus intelligentes, plus connectées, plus évolutives, et elles doivent permettre au final d'accueillir l'ensemble de ces nouvelles mobilités. Et notre rôle, c'est d'essayer de bien identifier le bon rythme d'évolution de ces infrastructures pour qu'ils soient calés sur le rythme d'évolution à la fois des nouveaux objets qui vont peupler ces infrastructures, mais aussi des nouveaux usages et des nouveaux modes de déplacement.
Mais alors on en est.
Je voulais savoir qu'est-ce que vous testez en ce moment. Qu'est-ce que nous on ne voit pas encore et qu'on pourrait voir prochainement sur les routes.
Qu'on verra peut-être à VivaTech.
Peut-être, on verra beaucoup de choses à Vivatech certainement. Ce que l'on teste, c'est les deux grandes transitions que l'on voit sur la mobilité routière, notamment à la fois la mobilité électrique et à la fois la mobilité autonome. Et on a deux grands enjeux à couvrir sur l'évolution des infrastructures pour qu'elles puissent accueillir ces nouveaux objets. On peut aller dans le détail.
Allez, faites-nous rêver.
Rêver, on va essayer. Non, sur les nouvelles mobilités électriques, l'enjeu, c'est la massification de cette mobilité électrique, c'est la pénétration de plus en plus importante ce véhicule, et c'est d'accompagner de la façon la plus efficace possible cette massification. Alors, on est engagé dès à présent dans du déploiement de plus en plus fréquent, à de plus en plus larges échelles, de chargeurs de véhicules véhicules électriques, avec des nos pôles d'activité chez Vinci Énergie notamment, qui développent notamment des réseaux de superchargeurs pour être en capacité de charger plus rapidement ces véhicules. Et c'est également un autre champ que nous regardons, qui est un peu plus prospectif. Là, alors on va peut-être rentrer dans le rêve, mais dans lequel on essaye de faire, de développer des expérimentations. C'est le sujet de la charge dynamique, c'est-à-dire la capacité pour les véhicules électriques de se charger en roulant effectivement. Et ça a deux avantages important. Le premier avantage, c'est de permettre de réduire le poids et les capacités de batterie que l'on met dans les véhicules, et donc de réduire le poids, de réduire le coût unitaire de ces véhicules. Et dans une logique d'appropriation massive de ces véhicules, ça nous paraît extrêmement intéressant. Premier avantage, la diminution de ces poids et de ces capacités de batterie. Et le deuxième avantage, c'est la capacité d'aller plus loin, de développer des projections à plus longues échelles. Ça marche très bien aujourd'hui, le véhicule électrique, sur du domicile-travail, sur des faibles distances. Notre enjeu, c'est de voir comment on peut accompagner la pénétration aussi sur des longues distances, sur autoroute, pour assurer les conducteurs de ce type de véhicule qui pourront aller à destination.
On en est où du développement de ces innovations? À quelle échéance est-ce qu'on pourrait envisager de recharger son véhicule simplement en prenant la route?
Alors aujourd'hui, on est engagé plutôt dans des premiers démonstrateurs, avec beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur ces sujets.
Il y a un démonstrateur dans la région parisienne, je crois.
À Satory, effectivement, qui est porté par l'Institut VDCOM, qui embarque beaucoup d'acteurs de la mobilité. Et l'enjeu, c'est d'aller voir comment on peut améliorer ce type de démonstrateur avec des constructeurs automobiles, avec des acteurs de l'énergie, avec des acteurs publics, pour embarquer l'ensemble de ces acteurs dans le développement de ces solutions.
Est-ce que la voiture autonome pourrait devenir une réalité en ville si la ville ne devient pas elle-même communicante, et si la ville n'est pas capable de donner des informations sur le trafic en temps réel, sur ce qui se passe trois rues plus loin, etc.?
Je pense que vous pointez le vrai sujet du développement de la mobilité autonome, de ce qu'on appelle les niveaux 3 et 4, c'est-à-dire des niveaux d'autonomie assez importants sur
des segments. On rappelle que ça va de manière théorique.
Ça va de 0 à 5. Voilà, à 5, où effectivement le niveau 5.
5, c'est la voiture
qu'on
siffle.
C'est le niveau où il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale. On est presque voyageur plus que passager ou conducteur de ce véhicule. Et le vrai enjeu de l'infrastructure, pour nous, c'est de venir répondre aux situations dans lesquelles le véhicule autonome n'a pas suffisamment d'informations ou suffisamment d'intelligence pour prendre la bonne décision, pour se déplacer de façon sûre. Alors c'est vrai en ville parce qu'on a une multiplicité d'objets sur cette infrastructure. Vous avez des piétons, vous parliez de trottinettes, on a les vélos, on a beaucoup d'occlusions, c'est-à-dire des camions de livraison qui s'arrêtent, par exemple, des bâtiments qui cachent le coin de la rue, ces mêmes bâtiments avec lesquels les signaux GPS rebondissent. Donc c'est difficile d'avoir des positionnements très précis. Et notre vision sur ces cas très spécifique, c'est de dire l'infrastructure doit être en capacité d'avoir une partie de la perception qui est normalement dans le véhicule sur l'infrastructure. Donc on va venir mettre de la perception.
Mettre des capteurs,
effectivement. C'est des choses que l'on fait par exemple dans le cadre d'une expérimentation avec la ville de Paris, dans le cadre du programme Data City, où on va venir mettre des capteurs pour identifier les types de flux sur des carrefours, pour bien avoir les bonnes informations sur ces sujets. Et c'est pourquoi pas aussi une partie de l'intelligence pour pouvoir traiter justement l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces capteurs pour aider le véhicule à se déplacer de façon plus efficace, plus sûre surtout. L'argument de la sécurité, il est d'autant plus important, d'autant plus sensible même pour les conducteurs, que c'est un robot qui conduit et pas un humain. Et donc tout notre enjeu, c'est de faire ça sur la ville et sur d'autres infrastructures aussi, sur l'autoroute. C'est effectivement un segment sur lequel on travaille également.
Très bien. Alors,
si je peux me permettre, même économiquement,
François Sillon.
On peut dire que plus on met d'intelligence dans l'infrastructure du carrefour, moins on a besoin d'en mettre jusqu'à un certain point dans chacun des véhicules. Et donc on va faire une économie d'échelle et on va être capable de mieux adapter la connaissance précise de ce qui se passe.
C'est le même argument que sur les véhicules électriques. C'est une capacité aussi de débarquer une partie de l'intelligence, de la mutualiser. Ça peut permettre de réduire les coûts unitaires des véhicules.
Parce que rappelons que l'un des freins au développement de la voiture autonome, c'est notamment le coût. C'est une technologie qui coûte très cher.
Nouveau Monde, spécial Vivatech 2019.
François Sillon de Uber, je rappelle que vous dirigez l'Advanced Technology Center in Paris, c'est-à-dire le centre de recherche et développement parisien de Uber. Et alors vous, vous travaillez, vous êtes déjà au-delà de ce qui se passe pour nous, pauvres rampants, vous travaillez sur les projets, paraît-il, très sérieux de Uber en matière de VTC volant, de taxi volant, c'est ça ?
Alors oui, effectivement, c'est sur la mobilité aérienne. Après, taxi volant, ça fait rêver, tout le monde a vu les films, Le Cinquième Élément, ce genre de films. Je pense que la vision d'Uber pour la mobilité aérienne, c'est pas la voiture individuelle et certainement pas dans un modèle de possession individuelle de la voiture. Donc de même que Frédéric disait tout à l'heure, il faut partager les véhicules, il faut aller vers du véhicule électrique connecté, partagé, inséré dans une plateforme. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, effectivement, pour l'aérien. Et j'ajouterais que pour l'aérien, on a un peu la vision... Aujourd'hui, les véhicules aériens, c'est plutôt des hélicoptères, donc c'est des choses qui sont très lourdes, très polluantes, qui font énormément de bruit, donc ça fait pas tellement rêver. Ce qui fait rêver, c'est des véhicules propres, qui font pas beaucoup de bruit, électriques, voilà. Et donc, on est à un carrefour aujourd'hui de développement technologique qui, d'une part, sur les véhicules, fait qu'on commence à voir, vous avez vu des annonces maintenant, il y en a pratiquement chaque mois, de premiers vols de différents prototypes. Donc tous les acteurs de l'aérien, que ce soit les grands groupes ou les startups, développent des véhicules à propulsion électrique, soit tout électrique, soit hybride. Donc ces véhicules commencent à apparaître. Et la réflexion d'Uber, c'est de voir comment proposer finalement un service qui ait du sens, je vais revenir là-dessus, pour utiliser ces véhicules pour la mobilité. Alors avoir du sens, ça veut dire quoi ?
C'est
pas juste faire plaisir à quelques happy few qui vont faire un trajet parce qu'ils peuvent se le payer en gros, voilà. L'idée c'est vraiment d'utiliser l'aérien là où il apporte un vrai bénéfice. Alors le bénéfice, il peut être de différents ordres, ça peut être simplement pour aller plus vite, pour éviter la congestion ou réduire la congestion dans certaines zones, mais il faut évidemment que ça s'y prête, il faut que ce soit viable économiquement. Il faut que, écologiquement, en termes de consommation de ressources, etc., ça ait un sens aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui, avec les études qu'on fait, que, justement, sur la base de véhicules tout électriques partagés, donc avec plusieurs, 4, 5 passagers dans chaque véhicule...
Dont un
pilote, au moins au début. À terme, on imagine bien sûr que ces véhicules puissent être autonomes. Mais on voit qu'on arrive à une équation économique où, d'abord, ça peut être pas très cher, c'est-à-dire comparable à des choses qui existent aujourd'hui. Ça peut donner des modalités supplémentaires qui, dans une offre globale de transport à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, etc., ont du sens et permettent de mieux servir finalement la population.
Mais est-ce que ça peut se développer en étant un produit de masse entre guillemets ? Est-ce que tout le monde demain peut utiliser ce service ?
Il suffira de dégainer son appli Uber.
Alors exactement. L'objectif, c'est que en termes de simplicité d'utilisation, ce soit aussi simple que n'importe laquelle des autres modalités. Après, derrière, il y a la question en termes de... si on parle de démocratisation, c'est-à-dire d'accessibilité au sens financier, etc., oui, ça doit être quelque chose d'accessible à tout le monde. On peut imaginer que si on va plus vite, on paye un peu plus cher que si on prend un VTC sur le sol, mais pas beaucoup plus cher. Après, il faut faire attention quand on dit transport de masse, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le débit en termes de flux de la ligne du RER A qui traverse Paris et qui a dans chaque...
Oui, ce serait plus du Uber Pool que du Uber
XL ou... C'est absolument du pool, je pense que c'est-à-dire du fait de faire partager sur un segment donc de vol entre deux infrastructures. Là aussi, il y a une question d'infrastructure, c'est-à-dire que ce n'est pas du porte-à-porte. Je ne vais pas venir vous chercher dans un taxi volant au bas de chez vous.
Écoutez,
et vous déposer sur le toit de la maison de la radio. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de nœuds qui permettent d'avoir... Donc ces services de véhicules volants dans lesquels on optimise, en remplissant bien ces véhicules et en optimisant beaucoup la charge, l'utilisation de l'énergie électrique, etc. Mm-hmm. Et puis après, il y a une problématique de premier kilomètre ou dernier kilomètre, et c'est là la force d'une plateforme. C'est
de pouvoir
connecter finalement ces différentes modalités d'une façon à la fois transparente et puis efficace.
Le service que vous êtes en train de décrire pourrait presque devenir un service public, quelque part. Enfin, ça pourrait être une alternative
à
un service public. Donc la question, c'est est-ce que vous arrivez à travailler, c'est la même que tout à l'heure, mais je la rebondis sur pour voir la vision un peu plus long terme, est-ce que vous arrivez à travailler avec les pouvoirs publics ?
De plus en plus. Je pense qu'on est obligé de le faire et que la vision du transport, elle ne peut être que globale. Et donc, Frédéric qui faisait allusion tout à l'heure, globale avec les différentes modalités et tout le monde va être obligé d'une façon ou d'une autre d'interconnecter les différents services. Et y compris, alors la notion après de transport public ou pas public, déjà dans les transports publics, ceux qui sont dans des concessions de telle ou telle forme ou opérés par des régies, etc. Enfin, je pense que la distinction n'est pas si pertinente que ça. La vraie question, c'est d'arriver effectivement à embrasser toutes ces modalités. Alors, et à les utiliser là où elles sont le plus pertinentes. Par exemple, pour l'aérien, il est évident que c'est pas pour faire un saut de puce d'un kilomètre et demi qu'on pourrait faire en trottinette, qu'on va prendre un taxi aérien.
Mais alors, qui va rassembler tout ça? Parce que là, vous décrivez tous des services en tant qu'utilisateur, on adorerait pouvoir utiliser. Seulement, on va pas avoir 15 applications sur le smartphone. Donc, est-ce qu'il y a un acteur aujourd'hui qui serait en mesure un peu de rationaliser tout ça et de rendre un vrai service à l'utilisateur?
Alors, moi, j'en vois un.
Ah oui.
Moi, j'en vois un autre.
Donc on voit bien Uber d'un côté, Blablacar de l'autre.
Faites votre choix.
Mais c'est vrai que est-ce que vous ne serez pas amené dans le futur finalement à travailler les uns avec les autres? Est-ce qu'on n'aura pas des méta-applications permettant de piocher sur différents services? C'est pas forcément absurde. Alors messieurs, si on peut prendre demain un taxi volant, on pourra peut-être envisager des choses encore plus folles. Et je vous propose qu'on s'intéresse à quelque chose d'assez hallucinant, qu'on pourrait décrire comme, je ne sais pas, une sorte de moto volante, une trottinette volante. Nous sommes avec Francky Zapata qui est en ligne avec nous depuis Aix-en-Provence. Bonjour Francky Zapata.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Alors, on rappelle qui vous êtes, Francky Zapata. Vous êtes pilote professionnel de jet ski. Vous avez été d'ailleurs plusieurs fois champion du monde. Et surtout, vous êtes inventeur d'un engin incroyable qui s'appelle le Flyboard, qui est un système qui permet de voler au-dessus de l'eau grâce à une tuyère branchée sur un jet ski. C'est bien ça?
C'est ça, c'est ça. Donc, la compétition de jet ski, c'était une première vie, quoi. J'ai passé 15 ans de ma vie à faire ça. Donc oui. Aujourd'hui, j'en suis un petit peu loin, mais c'est vrai que bon, le sport, ça permet de pousser ses limites tout le temps. Donc oui, c'est mon premier parcours, quoi, voilà. Ouais, et après, donc j'ai fait, comme vous avez dit, le flyboard et maintenant
le flyboard air.
Voilà, c'est ça. Donc le flyboard air, à la base, j'ai fait ça pour m'amuser. Hein. C'était un défi personnel et puis un défi avec l'équipe. Il n'y avait pas vraiment d'objectif. Nous, on a vraiment plutôt moi, j'ai une façon de travailler un peu différente de toutes les autres startups. Je crée des produits de façon plus compulsive. Oui. Et puis après, je suis opportuniste. C'est-à-dire, je crée des opportunités et puis j'essaye de suivre le train et de sauter dedans. Donc, quand j'ai créé le Flyboard, tout le monde m'a demandé quel était le business model, comment ça va être utilisé, qui va utiliser ça. Honnêtement, c'était pas vraiment ma priorité quand je l'ai créé. Je voulais déjà que ça vole. Et puis, pouvoir l'exploiter moi. Et c'était ça l'objectif principal au début.
Et alors le Flyboard Air, expliquez-nous un petit peu ce que c'est exactement.
Alors c'est un flyboard.
C'est la même chose, sans tuyau et plus seulement au-dessus de l'eau.
Alors ça y ressemble fortement. Après, visuellement du moins, après la manière de le piloter, c'est vraiment différent. Parce qu'en fait, en flyboard avec la version à eau, vous êtes debout sur une plateforme et vous essayez de la diriger. Vu qu'elle est attachée en fait à un tuyau, le centre de gravité il est partagé en fait entre le tuyau et le pilote. Donc en fait, vous subissez un peu tout ça. Alors que le Flyboard Air, vous volez réellement et la poussée en fait elle est réellement générée dans le centre de gravité de l'ensemble, quoi, pilote machine. Et du coup, vous êtes comme un oiseau, quoi. C'est-à-dire que il vous suffit de vous pencher dans la direction dans laquelle vous voulez aller et puis vous y allez.
Alors, Francky, à qui s'adresse ce type d'objet à terme? Est-ce que tout le monde, est-ce que mes enfants pourront faire du flyboard?
Il n'a pas de business model, alors, il a dit. Lui, il a
non, on y a, voit y, plus loin. Non, pour l'instant, non, j'avais pas de business model. Donc, cette machine-là, elle s'adresse à personne. Puisque bon, on a pris la décision de pas la vendre. Non, du coup, non, c'est une machine qui demande beaucoup de pilotage, beaucoup d'heures même de transformation physique, quoi. Il m'a fallu.
Oui, c'est pas à la portée de n'importe qui.
Non, pas du tout. Et puis bon, vous savez, les humains, ils sont très créatifs quand ça concerne l'accident. Ils trouvent toujours un moyen de se faire mal. Donc, même avec des produits simples. Donc, le Flyboard Air, c'est une technologie qui est assez compliquée à mettre dans les mains de tout le monde.
Ouais. L'armée est intéressée malgré tout.
Alors, l'armée est intéressée, mais pareil, pas pour un modèle de Flyboard Air. Le Flyboard Air, je vois pas un soldat atterrir sur dans un endroit de conflit et finir en chaussettes.
En chaussettes?
Ben parce que les chaussures sont attachées à la planche.
Ouais,
c'est comme un wakeboard. Donc du coup, non, on a créé ce qu'on appelle, nous, un Easy Fly. C'est une machine qui est une combinaison entre un flyboarder et un segway, on va dire, ou une trottinette. Et en fait, là, vous êtes debout sur une planche et vous tenez des manettes un petit peu comme un segway. Et là, du coup, en fait, l'algorithme de stabilisation est différent. Donc, du coup, comme le haut du corps du pilote est attaché, en fait, à la machine, la machine et le pilote ne font qu'un, et du coup, on peut changer le mode de stabilisation. Et là, du coup, la capacité de pilotage, elle passe de quelques centaines d'heures à quelques minutes.
D'accord.
Et là, effectivement, il y a un intérêt pour des applications militaires ou éventuellement de sauvetage. Là, on travaille, en fait, on est sur la fin de la construction de notre voiture volante.
Vous êtes en train de construire une voiture volante, là.
On a fini de construire une voiture volante. On finit, en fait, la partie carénage. Donc, on prend un petit peu de retard, mais ça sera maximum dans les 2 mois à venir. Et le problème, c'est que c'est une poussée qui est extrêmement complexe à contrôler, qui est très lente. Et donc, pas assez rapide pour contrôler des plateformes volantes ou des voitures. Donc, nous, on a déposé un brevet et on contrôle ces turboréacteurs en quelques centièmes de seconde. Donc plus rapidement que les hélices, et ça nous permet d'avoir un contrôle parfait et de s'affranchir d'ailleurs en même temps des turbulences et de pas être limité ni par la durée du vol ni par la vitesse.
Impressionnant. Vous présenterez tout ça à Vivatec.
Alors disons que on aura certainement des parties. Donc comme je vous dis, on est en fin de fabrication, donc c'est on court un petit peu après le temps, donc j'ai eu un accident assez grave de ski il y a deux mois, donc ça m'a pas mal retardé.
Oui, on a appris ça, effectivement. Bon, vu la vie que vous menez, on s'étonne pas forcément que vous ayez quelquefois des bobos, mais finalement, c'est pas en flightboard que vous êtes blessé, c'est en ski, hein, c'est ça?
Non, mais vous savez, les accidents, ils viennent sur ce que vous faites tous les jours et de façon, on va dire, répétée. Et donc voilà, je suis parti en ski, faire du ski avec ma famille, tout simplement. Et j'ai pris un arbre. Mais bon.
C'est des
choses qui arrivent. Bon, c'est un accident. Et bon, j'étais assez gravement blessé. Je n'ai pas passé loin de la mort. Donc, bon, ça m'a un petit peu retardé. Donc là, ça y est, je commence à être bien sur pied. Et donc, voilà. Donc, on présentera certainement une vidéo, etc. Mais disons que c'est plus qu'une question de semaine aujourd'hui. Mais bon, voilà, les dernières phases sont toujours les plus longues. Mais par contre, les prototypes ont déjà volé de manière autonome. Et donc voilà, on a un beau projet. Maintenant, des fois, j'ai l'impression un peu de nager à contre-courant de tout le monde. Mais justement, on discute souvent avec les autorités et ils sont affolés. Ils ont peur de voir.
Mais oui, mais vous avez eu des démêlés d'ailleurs avec les autorités françaises à un moment.
Alors oui, on va dire que j'en suis à 99% responsable. Mais
disons
qu'on n'avait pas vraiment compris qu'on faisait partie de l'aviation, comme je vous dis. Vous savez, moi,
à partir du moment où on vole, on fait partie de l'aviation.
C'est ça. Donc vous savez, moi je viens d'un autre monde. Je m'adapte. Donc si je veux résumer mon métier, je m'adapte. Donc à chaque fois je suis arrivé, j'ai débarqué comme ça dans des nouveaux mondes. Bon, chaque fois un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui. Quand je suis arrivé dans le jet ski, c'était à peu près pareil. Quand je suis arrivé dans le monde du business, ben c'était un peu pareil avec mes flyboards. On a très vite généré de l'argent. Et bon, on était un petit peu comme des ovnis. Là, dans l'aviation, c'est pareil. Moi, j'ai fait un flyboard, j'ai enlevé le tuyau. Je voyais pas pourquoi ça gênait. Je vois pas comment j'aurais pu gêner des avions. Vous voyez, donc.
Et bon, vous êtes à quelle altitude?
Bon, moi, je volais à une dizaine de mètres au début. Donc, vous voyez, c'était, pour moi, je voulais à la même hauteur qu'un flyboard et qu'il y ait un tuyau ou pas. Je vois pas ce que ça dérangeait. Effectivement, c'était une erreur. Donc,
il y a une autre start-up qui était présente à Vivatec il y a 2 ans, je crois, qui a pas eu des démêlés, mais en tout cas, qui a connu des difficultés pour développer son produit à Paris. C'est Seabubble, le fameux taxi.
Oui, absolument.
Flottant sur la Seine. Donc, ma question, elle est pour vous trois, mais est-ce que la France est un pays où on peut avancer rapidement sur ces questions?
Alors, moi, je vais y répondre, parce que honnêtement, il y a un système. Pour nous, du moins, il y a la réglementation qui est lourde à changer. Ça, c'est évident. Mais par contre, il y a des gens qui sont motivés. Il faut savoir discuter avec eux. Il faut savoir les motiver. Maintenant, il faut pas espérer changer les choses en quelques jours. C'est à chaque fois, c'est long. Maintenant, je dirais que l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Nous, on a des facilités énormes à circuler avec nos machines aux États-Unis, tout simplement parce qu'il y a une loi qui est différente, qui est l'ultra light. du moment où vous pesez moins de 110 kilos, je crois, et avec une certaine quantité de carburant et une certaine vitesse, la réglementation, il y en a pas. Grosso modo, n'importe quel âge, n'importe quelle personne peut, sans licence, rien, peut le piloter. Alors nous, ça nous a ouvert des portes et du coup, c'était plus facile de voler là-bas que de voler en France. Mais c'est pas pour ça que dès qu'il faut changer quoi que ce soit, ça va plus vite ailleurs. Il faut juste prendre son temps et imaginer l'avenir différemment.
Et Frédéric, François, vous avez des...
Moi, j'attends impatiemment le flyboard biplace ou quadriplace pour faire du covoiturage.
Du co-flyboardage.
L'appel est lancé.
Le blabla flyboard. Hein.
Non, mais écoutez, nous de toute façon, ensemble. C'est évident que quand on aura nos voitures volantes, il faudra qu'on fasse des partenariats justement avec des plateformes, puisque comme je vous ai dit, nous c'est pas du tout notre métier. Moi, je suis un opportuniste, je crée des opportunités quoi plutôt. Et disons que on crée cette voiture, on sait comment on va l'utiliser dans un premier temps. Ça va vraiment être pour du loisir et vraiment pour donner du plaisir aux gens. Et je pense que les personnes avec qui on a discuté justement des autorités voient ça d'un bon œil, puisque en vérité, ils sont un peu stressés de, pour la première fois au monde, de voir des voitures volantes qui vont, et puis ces voitures volantes vont traverser les centres-villes, voler au-dessus des maisons, au-dessus des enfants.
Attendez, allez, comment votre voiture volante?
Moi, voiture volante, en fait, si vous préférez, j'ai créé une plateforme volante. Et en fait, les engins, non, en fait, les engins qu'on peut créer ne dépendent que de l'imagination, non de frein que l'imagination. Donc, la première voiture qu'on a construite, c'est un mix entre un drone et une supercar. Vous voyez, donc voilà, c'était notre objectif, c'était pour se démarquer un peu de tout le monde. Nous, contrairement aux autres voitures volantes, on n'a pas de limite de vitesse. On peut dépasser largement les 400 km/h. Donc c'est un engin après qui peut évoluer, il peut devenir
simple le survol de Paris.
ça a l'air safe. Ouais.
Non, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est extrêmement safe et certainement plus qu'un avion. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a 10 moteurs qui propulsent la machine et on peut en perdre deux, y compris deux du même côté. C'est-à-dire qu'en fait, on a une technologie qu'on a développée qui permet, bon, je vais pas la détailler à la radio, mais disons qu'on a une espèce de quadix, vous savez, comme vous pouvez acheter un drone, sauf qu'on a le seul quadix au monde qui peut carrément arracher un bras et continuer à voler. Ouf. En réalité, le taux d'accident qu'on pourra avoir lié à la mécanique, c'est 10-8. Par contre, aujourd'hui, les systèmes de vol qu'on utilise, les IMU et les centrales inertielles et les contrôleurs de vol sont des systèmes, on va dire, issus de l'aviation, et donc du coup c'est aujourd'hui ça la limite. Mais on va dire que au niveau fiabilité et redondance, mais cette limite est la même que quand vous prenez un avion de ligne.
François Sillon, de Uber, qu'est-ce que vous en pensez?
Par rapport à votre question sur est-ce qu'on peut finalement changer les choses rapidement, je pense que les autorités qui font la régulation du trafic aérien, etc., elles ont raison d'avoir une obsession qui est la sécurité. Et ça, je pense qu'elles vont pas changer de ce point de vue-là. Après, ce qu'il faut faire, et je pense qu'on est en train de le faire de plus en plus en France, on l'a vu au niveau du sol sur les possibles expérimentations maintenant sur la voiture autonome, c'est avoir la possibilité d'expérimenter, de développer des technologies et après de pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour discuter. Si les voitures volantes peuvent aller à 200 à l'heure ou à 400 à l'heure ou avoir des modalités de fonctionnement extrêmement différentes, il va bien falloir quand même, à un moment donné, les faire cohabiter. Et donc là, il va falloir que et là, il y a que des autorités publiques qui sont là pour l'intérêt général, qui vont pouvoir mettre tout le monde autour de la table et édicter des règles. Donc le fait qu'il y ait des règles, je pense, est indispensable pour les questions de sécurité, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse expérimenter et être dans un dialogue pour construire les générations suivantes.
Et puis vous avez aussi des acteurs comme Amazon avec la livraison par drone. Donc il y a
tout à fait. Mais les drones peuvent être aussi. Les drones aujourd'hui, c'est peut-être même plus avancé sur les drones parce qu'aujourd'hui, quand même, en termes de.
Vous travaillez d'ailleurs également sur des drones
de livraison. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la livraison par drone. Et par exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs expérimentations en cours dans 5 endroits différents. Donc Uber est partenaire de l'expérimentation à San Diego pour faire de la livraison par drone. Mais voilà, c'est aujourd'hui une approche justement assez expérimentale qui est de regarder ce qui se passe, quels sont les besoins qui émergent, tout ça de façon encadrée bien sûr, avec des règles de sécurité, etc., pour ensuite que les agences, la FAA, la NASA, etc., puissent édicter les règles qui seront généralisées. Il faut qu'on sache faire la même chose en Europe.
La livraison par drone dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille, ça serait envisageable? C'est-à-dire pas seulement en zone rurale? Des petits drones au-dessus des immeubles.
Des drones qui passent au-dessus des immeubles, je pense que c'est possible. Mm-hmm. Après, on a tout de suite tendance à imaginer la livraison sur le pas de sa porte ou à son balcon.
Ouais. Et là, ce serait différent.
Là, je pense que non.
Ça, il faudrait aller chercher les colis sur le toit.
Il faut probablement aller les chercher quelque part, à un point de collecte. Mais tous ces modèles-là restent encore justement à affiner. Mais il y a aujourd'hui déjà suffisamment de questions à résoudre sur. Justement, où fait-on passer les drones dans un milieu urbain? Est-ce qu'on les fait passer au-dessus des immeubles, au-dessus des rues, au-dessus des voies ferrées, au-dessus des rivières? Tout ça, aujourd'hui, on n'a pas les réponses. Et il faudra que ce soit réglé ou régulé par des instances, pour le coup, publiques, et en plus, pas à l'échelle d'un pays, probablement.
Si possible, à l'échelle de l'Europe. Très bien. Eh bien, écoutez, rendez-vous dans le futur, messieurs, pour voir, on l'espère, les réponses à ces questions. Merci à tous. Frédéric Mazzella, Francky Zapata, qui était avec nous depuis Aix-en-Provence, François Sillon et Julien Villalongue.
Merci
d'avoir suivi ce podcast. Merci, Guillaume.
Merci, Jean.
On se retrouvera évidemment samedi prochain pour parler d'un autre thème. On parlera samedi prochain de MedTech, la technologie au service de la médecine, de la santé, etc. Et puis, bien entendu, rendez-vous à VivaTech à partir du 16 mai pour découvrir de visu certaines de ces innovations dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci à tous.